Merci beaucoup de votre accueil, merci au Père Valentin de son invitation, surtout dans ce cycle si original autour de l'Apocalypse, que le pape François a qualifié, je crois, de livre de la vie quotidienne de l'Église, ce qui ne saute pas aux yeux, mais que votre cycle permet de percevoir, la manière de poser les questions du discernement spirituel dans le temps marqué par toutes sortes de violence et de grâce qui est donnée par l'Apocalypse est en effet une lumière féconde pour notre temps. Vous l'avez sans doute évoqué dans votre première soirée, le mot Apocalypse en français courant désigne le cataclysme final. Et les enquêtes d'opinion sont souvent formulées avec des questions bizarres, et en particulier on demande aux gens s'ils croient à l'Apocalypse. Et sous-entendu, est-ce qu'ils croient que tout d'un coup il va y avoir une catastrophe terrible qui va tout détruire. En réalité, le mot Apocalypse, vous le savez, je pense, c'est la simple translittération, ce n'est pas une traduction, c'est la translittération du mot grec, Apocalypsis, qui signifie révélation. Et d'ailleurs, si vous cherchez l'Apocalypse dans une Bible anglaise, vous ne trouverez pas le mot Apocalypse, vous trouverez le Book of Revelations. Et dans beaucoup d'éditions de la Bible en latin, vous trouverez « revelationes ». Mais ces deux significations d'Apocalypse, « révélation » et « cataclysme », en fait, forment une dialectique féconde. Nous sommes inquiétés par le temps qui passe, avec tout ce qu'il nous apporte comme lot d'interrogations, de difficultés, voire de drames. Mais notre regard de foi, c'est justement de discerner dans cette apocalypse au sens premier, peut-être superficiel du terme, l'Apocalypse véritable, la révélation du mystère pascal du Christ. L'agneau immolé qui donne le sens de l'histoire. Vous connaissez ce beau passage de l'Apocalypse où il y a une sorte de désarroi général parce que personne n'est capable de rompre les sceaux du livre et personne sauf l'agneau. Il est digne, l'agneau immolé, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. C'est l'agneau immolé qui donne la clé de l'histoire. Alors, dans les quelques réflexions que je vais vous proposer sur le temps que nous vivons pour l'Église en France, comme l'a dit le Père Valentin, je ne cherche pas à faire preuve d'optimisme. Bernanos, qui est un de mes auteurs favoris, dit quelque part qu'un optimiste est un imbécile heureux. Mais Bernanos, qui avait une grande facilité à employer le substantif imbécile, ajoute qu'un pessimiste, c'est un imbécile malheureux. Alors je vous propose d'échapper à cette double forme d'imbécilité en choisissant une autre attitude qui est celle de l'antidéfaitisme. Souvent, nous sommes marqués dans l'Église en France aujourd'hui par une forme de déclinisme qui peut confiner à la délectation morose en étant attentif surtout à ce qui ne marche pas, à ce qui disparaît, et quand par hasard quelque chose surgit, on dira toujours les choses de manière négative. Dans une paroisse comme la vôtre, riche de nombreux jeunes et brillants prêtres, on dira dans notre paroisse, il y a encore tant de prêtres. Vous voyez, en se mettant systématiquement dans une logique de déclin. Et cela me semble, à bien des égards, erroné, du simple point de vue de l'analyse objective de notre situation spirituelle. Et puis surtout, il faut sortir de ce que j'appellerais un instant, vous me pardonnerez cette bistrerie, cette espèce de déguévienisme spontané. C'est-à-dire que nous pensons qu'il y a un sens de l'histoire, et donc nous sommes dans une phase de déclin prévisible et inéluctable du christianisme. Alors que la vérité de l'histoire, c'est que depuis le commencement, le christianisme passe par des phases de mort et de résurrection. Nous y voici. C'est l'agneau immolé qui donne la clé de l'histoire. Et même avec des cycles relativement brefs. Dans les années 70, les plus anciens parmi nous, au rang desquels je finis par me compter, s'en souviennent, personne n'imaginait que 40 ans après, il y aurait encore des vocations sacerdotales, il y aurait des familles désireuse de se construire sur le Christ, l'élan culturel des années 68-70 était à l'annonce d'une disparition programmée et généralisée de l'Église, qui ne s'est pas produite, même si des grandes difficultés ont été rencontrées. Donc l'histoire n'est pas une espèce de sens inéluctable. L'histoire est une succession de morts et de résurrections. Et chaque génération chrétienne, depuis le commencement, doit vivre ce mystère pascal, et ce n'est pas une mauvaise nouvelle, puisque c'est la bonne nouvelle du Christ qui vient nous chercher et qui nous rejoint et nous donne de vivre son mystère de mort et de résurrection, ce qui veut dire qu'il y a des choses qui meurent, qui disparaissent, mais si ces situations difficiles sont vécues dans la foi et dans l'espérance, d'autres choses renaissent et permettent que l'Évangile soit annoncé. Alors, pour essayer de vous faire partager ce regard, je vais vous proposer cette série de réflexions, mais avant cela, je voudrais encore m'arrêter sur une image. Nous sommes le 11 février 2013. Que s'est-il passé ce jour-là ? 11 février, c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes, mais il se tenait aussi à Rome une réunion qu'on pourrait juger un peu désuète, quelques vieux cardinaux dans leurs plus beaux atours pour décerner quelques décrets de sainteté à des fondateurs d'ordre un peu oubliés. Et c'est au cours de cette cérémonie que, dans trois phrases en latin, que peu de personnes ont comprises, parce que la plupart des auditeurs extérieurs ne comprenaient pas le latin, et que la plupart des cardinaux connaissant le latin étaient sans doute dans un semi-sommeil, eh bien, Benoît XVI a annoncé son retrait. Et ce mal-aimé des médias, qu'on pensait totalement décalé par rapport au mainstream de la société médiatique universelle, a immédiatement suscité la mobilisation générale de tous les médias du monde. Et quelques semaines après, l'élection du pape François a suscité un engouement du même ordre et même plus grand, qui avait déjà eu lieu au moment de l'élection des papes précédents, mais comme les systèmes de communication ne cessent de se multiplier, de se développer, eh bien, l'événement a eu une répercussion encore plus grande. Qu'avons-nous vu au moment de l'élection du pape François sur la place Saint-Pierre et dans le monde entier via tous les moyens de communication que nous savons? Une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toute race, langue, peuple et nation. Exactement les paroles de l'Apocalypse. Une foule immense pour qui il était important que le pape soit à son poste, que la loggia de la basilique Saint-Pierre soit allumée. Et il me semble que cette image, qui a sa limite, mais sa réalité extrêmement forte, doit nous inviter à regarder les choses autrement que sur un mode d'église. Alors maintenant, j'en viens à mon parcours de 7 thèmes successifs pour essayer de vous montrer qu'aujourd'hui, il y a dans beaucoup de domaines de la vie de l'Église et du monde et de leurs relations des signes d'espérance qui appellent une conversion. Et donc, je vais vous proposer 7 fois un signe d'espérance et 2 chemins de conversion. Pour bien nous mettre dans l'idée que l'espérance ne conduit pas au repos, mais au réveil. Et d'ailleurs, le sens de l'Apocalypse est aussi cette logique de conversion. Rappelez-vous, les 7 lettres aux églises qui commencent l'Apocalypse, avec en particulier à l'une d'entre elles, l'invitation à retrouver sa ferveur première. Alors commençons par parler un peu du rapport entre l'Église et le monde politique en France. Beaucoup se diraient qu'il y a là un divorce inéluctable, qu'aujourd'hui le monde politique et l'Église sont dans deux logiques totalement différentes. En réalité, il me semble qu'il y a une réelle attention, au-delà des mots et des postures parfois, du monde politique à l'égard de l'Église catholique. Et plus que nous ne le pensons, les prises de position de l'Église, les actions des chrétiens sont regardées avec attention. Non pas pour être immédiatement d'accord avec tout ce que dit l'Église, et de toute façon, le rapport entre l'Église et le monde politique est structurellement fait pour être dans une forme de tension, comme on le voit dans l'Écriture, entre les prophètes et les rois, ou par exemple entre Jésus et Pilate. Mais il y a une véritable attention, plus que nous le croyons. Le père Valentin a fait allusion à la petite mission que j'ai exercée pendant 8 ans, dans quelque sorte aumônier des parlementaires. J'ai reçu à ma table pendant 9 ans, tous les jours, un parlementaire à déjeuner, soit à sa demande, soit sur ma proposition. J'ai organisé très souvent aussi des déjeuners-débats, mais quand je n'avais pas de déjeuner-débat, avec parlementaires, collaborateurs parlementaires ou autres acteurs de la vie politique, j'avais un parlementaire. En recevant tout le spectre des parlementaires représentés à l'époque où j'étais en fonction, du Parti communiste au villériste. C'était le spectre à l'époque. Et en 9 ans, je n'ai pas eu plus de 5 parlementaires qui n'ont pas donné suite à une proposition de rencontre. Tous étaient, sinon demandeurs, du moins disponibles. Et on pourrait multiplier les exemples de cette réelle attention du monde politique au monde chrétien quand il s'en donne les moyens. Aujourd'hui encore, il y a de telles questions que les politiques ont à résoudre, qui sont nouvelles dans leur poids en raison de l'évolution scientifique. Vous voyez toutes les questions de bioéthique, le débat sur la fin de vie que nous connaissons maintenant. Beaucoup de débats sont devenus tellement difficiles que tous ceux qui ont quelque chose de pertinent à dire sont, sinon entendus, du moins écoutés. Encore faut-il pour cela, et nous en venons maintenant aux 2 points de conversion dans ce champ-là, à mon avis, bien prendre la mesure de 2 choses. D'abord, s'il est très important que les catholiques sachent se mobiliser pour défendre les positions éthiques, ils l'ont fait de manière abondante il y a 2 ans, et c'était très important de le faire, et même quand des combats semblent apparemment perdus, ils ne sont pas inutiles. Donc, il est vraiment très important de se mobiliser sur les questions éthiques. Cela est nécessaire, mais cela n'est pas suffisant. Il est très important qu'aujourd'hui, les catholiques soient davantage source de propositions pour notre société. Sur énormément de sujets, comme je vous le disais, les politiques sont en panne de propositions. Et il n'y a pas d'autre limite à l'influence des catholiques que leur créativité, leur inventivité, leur travail, leur énergie à faire surgir des trésors d'humanité contenus dans la foi chrétienne, des propositions nouvelles. Je vais vous raconter une petite parabole, en quelque sorte, un peu amère, pour que vous puissiez vraiment accueillir cela. Nous étions, il y a quelques années, peut-être maintenant une dizaine d'années, il y avait à l'Assemblée nationale une mission d'information parlementaire sur la famille et le droit des enfants. Cette mission avait été en fait instituée pour marcher déjà vers le mariage entre personnes de même sexe. Et contre toute attente, le résultat de cette mission a été de prendre une option inverse et qui avait beaucoup contribué à l'époque à fixer la position du candidat UMP, Nicolas Sarkozy, contre l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe. Cette mission d'information parlementaire se réunissait régulièrement et je parlais assez souvent à la rapporteure, comme on dit désormais élégamment, pour n'offenser personne, qui était en l'occurrence Valérie Pécresse, députée des Yvelines. Et nous parlions volontiers et longuement, elle était heureuse de parler un peu librement quand je l'appelais au téléphone pour savoir où en étaient les travaux de sa mission d'information parlementaire. Dans un premier temps, elle pensait, pour écouter les religions, faire ce qui a été si mal fait il y a quelques mois au moment de la loi Taubira, une table ronde, on met toutes les religions sur un pied d'égalité, on leur donne un petit temps de parole, et puis l'affaire est faite. Et moi, j'avais beaucoup insisté pour qu'on ne fasse pas cela. Parce que les religions, en France, ne sont pas toutes des religions de la même manière. Le mot religion est un mot, en fait, assez vague. C'est un mot qui n'est pas totalement univoque, suivant de quelle religion il s'agit. Et elle s'était rendue à mes raisons, et donc elle avait organisé une matinée où les responsables religieux étaient entendus les uns après les autres, pour eux-mêmes. Et puis elle m'avait dit, vous savez, que l'autorité catholique qui viendra vienne aussi avec des propositions. Pas uniquement des convictions à défendre, mais aussi des propositions. Et elle a ajouté que, en fait, le problème d'une mission comme celle-là, je l'ai vu aussi par exemple sur la bioéthique, c'est que si on n'a pas de proposition pertinente à proposer, il faut quand même justifier 3 mois de travail, des rapports énormes, des fonctionnaires qui ont donné du temps à cela. Et pour le justifier, ben le plus simple, c'est la transgression éthique. Ça ne coûte pas cher et ça plaît aux médias. Et donc, vous voyez, elle avait une attente de proposition. Donc je dis à l'autorité ecclésiastique en question que c'est bien de venir avec des propositions. Je lui propose de faire travailler quelques personnes pour que cette autorité arrive dans sa besace quelques propositions originales, déjà un peu élaborées. Il me dit « Non, non, t'inquiète pas, tout ira très bien. » J'accompagne l'autorité en question le jour venu devant la mission d'information parlementaire qui présente les options éthiques de l'Église sur la famille et le mariage de manière tout à fait convenable et même plutôt bien. Et puis, et en plus, les catholiques sont souvent, par rapport aux juifs et aux musulmans, par exemple, on a une telle habitude de toujours insister sur le respect inconditionnel des personnes, quel que soit leur itinéraire, en corollaire d'insistance éthique, que par rapport à d'autres qui n'ont pas spontanément la même attitude, la position catholique est vite assez convaincante, en fait. Et une fois ces positions défendues, notre ami la rapporteure dit « Et monsieur l'évêque, maintenant, avez-vous des propositions ?» Silence. Pas de proposition. Et je trouve que, même si ce que je disais est une généralité un peu injuste, mais je trouve que c'est représentatif, cette petite parabole, c'est pour ça que je me suis permis de vous la rapporter avec quelques détails pour qu'elle s'inscrive dans votre mémoire, est un peu significative de la position des catholiques en France aujourd'hui. C'est bien de défendre des positions éthiques, mais il faut aussi être davantage source de propositions. J'y reviendrai d'ailleurs dans notre domaine un peu plus tard. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est notre rapport à la laïcité qu'évoquait le père Valentin. Nous sommes souvent, nous les catholiques de France, plus laïcs que nous le devrions. Nous surinterprétons constamment la loi de 1905. Le statut des cultes en France est marqué avec la loi de 1905 et la jurisprudence qui en découle par une séparation institutionnelle entre les églises et l'État. Ce qui veut dire 2 choses. Pas d'indiscrétion des églises dans le fonctionnement interne de l'État et pas d'indiscrétion de l'État dans le fonctionnement interne des églises. Mais cette séparation institutionnelle n'est pas une séparation globale entre les églises et la société. Elle n'est pas une séparation globale entre les églises et la société. Et très souvent, nous nous bridons dans les débats publics. Combien de catholiques disent, en conversant les uns avec les autres, « Comme catholique, je ne suis pas d'accord avec ça, mais je ne peux pas le dire, puisque nous sommes un pays laïque. » Mais enfin, rien dans notre régime juridique ne nous empêche de prendre part au débat public en France en tant que chrétien. Rien ne nous en empêche. Alors certes, les promoteurs de la loi de 1905, pour la plupart, souhaitaient, visaient une séparation entre l'Église et la société, mais dans notre régime juridique effectif, rien n'y contraint. Et souvent, les catholiques de France succombent à une sorte de syndrome de Stockholm. Vous savez, c'est l'otage qui devient complice du preneur d'otage à force d'être en sa compagnie. Nous n'avons pas à être plus laïcistes que les plus laïcards. Et il nous faut assumer paisiblement le fait qu'en France, les religions ont le droit de citer, que les droits des religions peuvent se déployer dans l'espace public. Et d'ailleurs, quand on fait une déclaration préalable dans le respect strict de la légalité républicaine, déclaration préalable pour une procession, pour un chemin de croix, il n'y a en général aucun problème. Mais vous voyez, il ne faut pas nous brider dans ce domaine-là. Et je crois que c'est d'autant plus important que nous vivons le moment que rappelait le père Valentin. Vous aurez été comme moi sensible à ce paradoxe étonnant de responsables politiques qui se sont dans un premier temps empressés d'expliquer que les attentats n'avaient aucun rapport d'aucune manière à quelque phénomène religieux que ce soit. Mais la seule réponse politique est un durcissement de la laïcité. Étonnante réponse à un problème nié. Mais surtout, réponse décalée. Parce que je crois qu'à vouloir exclure le religieux de l'espace social, on ne parvient qu'à fabriquer du religieux refoulé, qui ressurgit de manière violente. Plus on sera, du point de vue public, dans un positionnement laïciste, plus on fabriquera de la réaction religieuse violente. Et je crois que c'est notre responsabilité de chrétien de pouvoir justement témoigner que l'appartenance religieuse, bienvenue dans l'espace public et dans la société, n'en menace pas la paix. Et il y a un vrai enjeu, non seulement pour nous-mêmes, mais pour toute la société, d'avoir une vision et une expérience juste de la laïcité. Voilà mon premier thème. Rassurez-vous, je serai un peu moins disert sur les suivants pour ne pas faire exploser mon temps de parole. Alors, deuxième thème, c'est celui de notre culture, la culture française aujourd'hui. Les catholiques français, décidément bien sensibles au syndrome de Stockholm, en rajoutent souvent sur le fait qu'aujourd'hui, l'Église, le christianisme est sorti des écrans radars de la culture française. Et il y a même des sociologues, catholiques en tout cas d'origine, qui ont forgé un concept pour cela, l'exculturation. Désormais, les catholiques sont exculturés en France. La culture française est devenue hermétique à la foi chrétienne. Alors, je ne nie pas, je ne suis pas dans un optimisme imbécile, je tente de le redire, je ne nie pas qu'aujourd'hui, énormément de nos contemporains n'ont aucune culture chrétienne. Et j'imagine qu'il y a parmi vous des enseignants et qui ont eu l'occasion de voir souvent que les enfants n'ont aucune culture chrétienne, même quand ils ont déjà 14-15 ans. Donc je ne le nie pas du tout. Mais en même temps, il ne faut pas, et c'est le point d'espérance de ce deuxième thème, il ne faut pas manquer les signes d'abord d'une persistance plus grande qu'on pourrait penser de la culture chrétienne qui façonne tout en France. C'est le paradoxe de la France, pays monarchiste et républicain, pays sans doute le moins religieux du monde, et en même temps le plus catholique, où toute la structure de notre pays, tous les noms de villages, tous les temps de choses sont toujours marqués par notre histoire catholique. Et à vouloir éradiquer cela, en fait, on détruirait le fonctionnement même de la France. Imaginez que, par exemple, on décide que désormais l'Élysée est située rue Faubourg Honoré, on pourrait multiplier les exemples de ce genre-là, ce serait non seulement ridicule, mais en plus impossible. Dans notre contexte français, il est aussi impressionnant de voir que des hommes et des femmes de culture, d'origine spirituelle, idéologique extrêmement variée, sont habités non seulement de questions spirituelles, mais aussi d'une fascination pour la culture chrétienne. Je me permets de prendre deux exemples littéraires qui m'ont beaucoup marqué. Le très sulfureux Michel Houellebecq, dont le dernier livre n'est sans doute pas le meilleur qu'il ait écrit, mais qui a reçu le Goncourt il y a 4 ans pour le précédent, La carte et le territoire, qui est un roman très fort, peut-être d'entre vous, certains d'entre vous l'ont-ils lu. Alors c'est Houellebecq, hein, donc ce n'est pas à mettre entre toutes les mains, et c'est la coïncidence du glauque et du sublime. C'est quelque chose de typique de notre époque. Mais il y a dans ce livre un passage sur la rencontre d'un père et son fils dans la nuit de Noël, mais qui est... Houellebecq est un vrai écrivain avec une capacité à croquer les situations extraordinaires, mais aussi à faire des références littéraires extrêmement fines et nombreuses. Et il y a une atmosphère évangélique, quasiment comme un chemin d'Emmaüs ou comme... aussi quelque chose du fils prodigue. Et c'est extrêmement frappant de voir que cet homme, même dans son dernier roman, qui n'est pas scandaleux, mais qui n'est pas très fort, je trouve, mais reste fasciné par les abbayes, par la figure de Huysmans et de sa conversion. Voilà un homme qui est vraiment touché par le mystère du Christ. Par ailleurs, je vous signale dans le débat que nous connaissons actuellement sur la fin de vie, dans la carte et le territoire, des pages, parmi les pages les plus extraordinaires que j'ai jamais lues sur l'euthanasie, tout à fait saisissantes, y compris avec un mot d'humour sur les écologistes qui se plaignent non pas du travail d'euthanasie abondant dans un centre d'euthanasie à Zurich, mais du fait que les cendres rejetées par ce centre polluent le lac et font disparaître certaines espèces de poissons. Autre exemple, Jérôme Ferrari, qui a eu le Goncourt l'année suivante, il y a maintenant 3 ans, avec un livre extraordinaire aussi, glauque et sublime à souhait, qui s'appelle « Sermon sur la chute de Rome ». C'est l'histoire de la mort et de la résurrection d'un bar sordide dans la montagne corse, interprété comme une sorte d'allégorie de la situation du monde, à la lumière des sermons prononcés par saint Augustin pendant les invasions barbares et la chute de Rome. Je ne sais pas si vous avez tous lu les sermons sur la chute de Rome. Jérôme Ferrari n'a pas grandi dans une famille tellement chrétienne. Il a été baptisé pour faire plaisir à la grand-mère. Il n'a eu aucun catéchisme. Mais comme il était corse, eh bien, sa culture l'a conduit au chant corse. Et le chant corse l'a conduit à la Bible, à la liturgie, puis au père de l'Église. Et voilà un homme qui vit un chemin étonnant. Et tous ses livres sont marqués par cette recherche spirituelle. Le premier s'appelait « Dans le secret », l'évangile du mercredi décembre. « Ton père voit ce que tu fais dans le secret ». Son deuxième livre, le précédent, en tout cas avant le sermon, « Où j'ai laissé mon âme », un livre structuré par des références évangéliques. Chaque chapitre a comme titre une composition de chiffres, et puis à la fin de chaque chapitre, le héros, qui est une histoire sordide aussi, glauque et sublime, de torture pendant la guerre d'Algérie, le héros du livre fait sa prière, ouvre sa Bible, et lit le verset que la notation chiffrée annonçait comme titre du chapitre, et le verset donne tout son sens à ce qui a été évoqué. Vous voyez, Jérôme Ferrari, c'est un homme qui pourrait être très loin de la foi, il est professeur de philosophie dans l'éducation nationale, mais il a une vraie recherche spirituelle. Et d'ailleurs, nous avons depuis quelque temps lié amitié et nous échangeons beaucoup et de manière très belle. Donc, il y a une véritable attente, malgré l'ignorance de la culture chrétienne de beaucoup de contemporains, il y a une véritable attente à l'égard de l'Évangile. Mais là, il nous faut aussi, me semble-t-il, nous transformer pour pouvoir y répondre. Alors d'abord, il nous faut être capable d'expliciter tout ce qui est incompréhensible par nos contemporains de la culture chrétienne ambiante. Beaucoup de nos contemporains, même sans le savoir, ont une espèce de malaise parce qu'ils sont des étrangers dans leur propre pays. Pas parce qu'ils sont nés en Afrique du Nord ou ailleurs, mais parce qu'ils ont coupé leurs racines. Et donc ils ne savent pas qui ils sont. Et nous, notre responsabilité à l'égard de la société, c'est de leur dire qui ils sont. Mais encore faut-il pour cela que nous soyons tous, pas 2 ou 3 paroissiens érudits, mais tous capables d'expliquer toutes les scènes scripturaires de nos églises, de nos musées, que nous soyons vraiment en mesure de rendre raison de cette culture chrétienne qui est présente et dont nous avons la clé. Ne pas être capable d'ouvrir la porte de nos racines chrétiennes, c'est une espèce d'égoïsme insensé. Donc là, il y a sans doute un chantier pour se mettre vraiment en route. L'autre chose que je voudrais dire maintenant, et qui ressemble un peu à la précédente, on entend parfois dire que désormais, les catholiques devraient s'ériger entre eux en contre-culture. Parce que finalement, notre regard sur la vie, sur le monde, est tellement différent de celui de la plupart de nos contemporains qu'il faut l'assumer une fois pour toutes. Notre modèle doit être contre-culturel. Alors, je crois qu'il faut assumer paisiblement, je vais y revenir dans un instant, le fait d'être en décalage par rapport à certains aspects de notre société. Mais en même temps, le principal problème aujourd'hui, c'est pas que nous soyons contre-culturels, c'est que nous soyons au moins un peu cultivés, suffisamment cultivés. D'autant que la culture, au sens fort du terme, je vous renvoie sans doute au texte le plus fort sur ce sujet, qui est le discours de Jean-Paul II à l'UNESCO en 1980. La culture, au sens fort du terme, c'est d'habiter pleinement notre humanité. Et donc, non seulement par les beaux-arts, les belles lettres, mais par la manière de vivre, la délicatesse, la convivialité juste, nous avons à investir sur le plan culturel, qui est une zone de contact avec la société non chrétienne, mais qui est aussi une zone de profondeur pour pouvoir vivre et accueillir l'Évangile. Et donc aujourd'hui, la priorité n'est pas d'être contre quoi que ce soit, mais de se donner les moyens d'un catholicisme qui ne soit pas élitiste, qui ne soit pas enfermé dans l'érudition, mais qui ait cette profondeur, cette largeur de la culture au sens le plus profond du terme. D'ailleurs, vous voyez, il me semble qu'aujourd'hui, dans le contexte que nous connaissons depuis 15 jours, je crois tout à fait déplacé, contre-productif, et sans doute sera d'ailleurs surtout de l'ordre des effets d'annonce, et peut-être tant mieux, de surinvestir sur l'enseignement de la laïcité. Parce qu'on risque simplement de contribuer à continuer à faire surgir du religieux refoulé et violent. Mais en revanche, ce qui est absolument indispensable pour la paix de notre pays, c'est d'apprendre bien à lire, à écrire, à aimer l'expression française. Vous savez que beaucoup de vos professeurs notent que la violence des jeunes est inversement proportionnelle à leur culture tout simplement française, et que le nombre de mots qu'ils possèdent, quand il est trop limité, fait qu'il n'y a pas d'autre exutoire à ce qu'ils ressentent que la violence. Je dois saluer d'ailleurs un des rares ministres de l'Éducation nationale vraiment courageux, qui a été Gilles de Robien, qui, après les émeutes de banlieue de 2005, a pris des positions très courageuses pour revenir à une méthode de lecture raisonnable. Et son successeur, un homme excellent pour qui j'ai beaucoup d'amitié, mais peut-être un peu trop prisonnier de ses solidarités d'enseignant, est revenu en arrière quelques mois après, et c'est bien dommage. Aujourd'hui, je pense que plutôt que de faire des sermons sur la laïcité aux jeunes des banlieues ou des centres-villes, il faudrait leur apprendre les fables de La Fontaine et les comédies de Molière. J'en viens maintenant au fonctionnement de l'Église elle-même. Malgré ce que je viens de dire, certains d'entre vous, et peut-être pas ici dans cette vénérable assemblée, mais en dehors, parmi les chrétiens, se diront qu'au fond, l'Église quand même est un peu à côté de son temps, qu'elle se trompe un peu d'époque. C'était d'ailleurs une formule de Maurice Druon, le grand Maurice Druon, l'auteur de Roi maudit, qui a écrit dans Le Monde, il y a une quarantaine d'années, une tribune tonitruante intitulée « Une Église qui se trompe de siècle ». Est-ce que nous ne sommes pas en train de nous tromper de siècle ? Alors, dans cette tribune tonitruante, Druon, qui n'était pas un croyant totalement convaincu, disons que c'était plutôt un croyant du seuil, qui avait un attachement à l'Église, mais qui était dans un questionnement profond, lié aussi à une expérience humaine heurtée, en fait, n'était pas en train de protester contre l'archaïsme impénitent de l'Église. Il protestait contre le fait que, par fascination pour le moment présent, l'Église, à son estime à l'époque, au début des années 70, bradait sa capacité à répondre aux attentes spirituelles de ses contemporains. Et il me semble que aujourd'hui, notre monde n'attend pas de nous une conformité immédiate à ce qu'il est. En dépit des apparences, le plus grand nombre n'est pas durablement sensible à une posture démagogique. Et il me semble, et ça c'est les deux points que je voudrais dire de manière positive sur ce chapitre, très important, que nous assumions le décalage congénital à certains égards de la foi chrétienne avec le monde ambiant. Ça fait partie de notre ADN chrétien de ne pas être immédiatement conforme à notre environnement. Pensez dans l'Évangile, quand Jésus dit « Je vous donne ma paix », ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Et je crois vraiment très très important que nous assumions cela paisiblement. Je pense que dans l'éducation des enfants, il est très important de savoir faire en sorte que les enfants soient bien dans leur environnement, mais assument aussi une différence par rapport à ceux au milieu de qui ils vivent. Ça fait partie de l'être chrétien, aujourd'hui comme hier. Peut-être aujourd'hui sur certains points de manière plus vive, mais ça a toujours été dans l'identité chrétienne. Qu'on peut résumer avec la formule de l'évangile selon saint Jean, à nouveau, être dans le monde sans être du monde. Le problème, c'est que nous sommes parfois dans la situation inverse dans l'Église en France. Les catholiques ne sont pas dans le monde, certains. Ils sont un peu enfermés dans leur petit monde, leur demi-monde, dans leur arrière-monde, que sais-je. Ils se voient entre eux et certains ne comprennent pas pourquoi tous les Français ne sont pas habillés par Cyrillus, lecteur de telle ou telle revue que je ne nommerai pas pour ne croiser personne. Donc ils ne sont pas dans le monde, mais ils sont totalement du monde, au sens de saint Jean, avec la force, vous voyez, de péché marquée par le mot monde chez saint Jean, avec le prince de ce monde, le menteur qui en est le maître, c'est-à-dire prisonnier des petites ambitions et des grandes mesquineries. Alors que la conversion à laquelle nous sommes appelés, c'est d'être vraiment dans le monde, sans être du monde, comme Jésus lui-même qui vient là-haut. Et même le paradoxe, c'est que Jésus est dans le monde plus que personne, parce qu'il n'est pas du monde. Et nous, si nous voulons être vraiment au cœur du monde, nous avons à assumer que nous ne sommes pas du monde, que la logique de notre action, de notre réflexion, elle vient d'en haut. Et c'est pourquoi notre cycle sur l'Apocalypse est si bien vu, c'est parce qu'il s'agit de partir, pour comprendre le temps dans lequel nous sommes, du mystère du Christ mort et ressuscité. Donc, apprenons à être dans le monde sans être du monde. Le deuxième point qui me semble très important et qui n'est pas très différent de celui-ci, c'est évidemment l'importance de l'unité entre les catholiques et plus largement aussi les chrétiens, évidemment. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de dispositions à l'unité qu'on ne le croirait. Parce que le monde étant ce qu'il est, au fond, tous ceux qui croient un peu, beaucoup, passionnément, sont à la recherche de densité spirituelle. Qu'elle prenne telle forme ou telle autre n'a pas toujours une importance énorme. Sauf peut-être pour les clercs, qui sont parfois un peu trop caporalisateurs dans leur vision de la communion de l'Église. Mais je crois très important que nous soyons sensibles à cela. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une dynamique d'unité dans l'Église en France. Clavel, certains d'entre vous ont sans doute en mémoire son extraordinaire brûlot des années 70, « Dieu est Dieu et nom de Dieu », débute ce livre extraordinaire par une prophétie dont je veux croire qu'il l'a écrite pour que ses lecteurs aient le désir de la faire mentir. En tout cas, c'est l'effet que ça a eu sur moi, où il dit que l'Église va être partagée entre ce qu'il appelle la chapelle, des chrétiens enfermés dans leur petit cercle, et l'archipel, des chrétiens qui se disparaissent par, disons, ressemblance avec le monde dans lequel ils prétendent s'impliquer. Et il dit d'un côté, on aura perdu la charité, et de l'autre, on aura perdu la foi. Eh bien, il me semble qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout contraint à être dans cette alternative entre la chapelle et l'archipel. On peut vraiment trouver une forme large et vaste d'unité, pourvu que l'on cultive l'attitude première du chrétien, savoir la bienveillance ecclésiastique, la bienveillance de chaque chrétien à l'égard de l'autre. Voilà pour mon troisième point, après la politique, la culture, la vie ecclésiale elle-même. Et j'en viens maintenant à ce qui me semble peut-être central aujourd'hui, qui est la question de notre rapport à la vérité. À bien des égards, notre époque n'aime pas la vérité. C'est d'ailleurs un des sujets, un des points d'attention essentiels du pape Benoît XVI, qui parlait sans arrêt du relativisme. Mais le pape François n'est pas en reste. qui, dans La joie de l'évangile, qualifie le relativisme d'idolâtrie de la subjectivité individuelle. Et c'est vrai que dès qu'on parle de vérité aujourd'hui, on est suspect d'intolérance, de violence intellectuelle, voire pire. Mais en même temps, notre époque a soif de vérité. Et vous voyez par exemple que, au même moment, il y a eu le débat sur la loi Taubira et l'affaire Cahuzac. Quand un parlementaire disait « mais on ne peut pas nier cette vérité », un enfant naît d'une manière ou d'une autre de la rencontre, sinon d'un homme et d'une femme, du moins de gamètes mâles et féminines. Quand un pauvre parlementaire s'aventurait à dire ça, on disait dogmatisme, intégrisme religieux, à chacun sa vérité. Mais en même temps, quand ce pauvre ou ce riche ministre a fini par avouer qu'il avait mis quelques centaines de milliers à l'abri, tout le monde a crié au mensonge et au scandale d'avoir menti devant la représentation nationale. Et donc, le mensonge, eh bien, en creux, le signe d'un rapport nécessaire à la vérité. Il y a quelque temps, j'ai fait un débat assez amusant avec quelques hommes politiques et le directeur d'un institut d'études politiques qui, alors que nous parlions de la vérité, a pris la parole de manière assez désagréable à l'égard du prêtre que je suis et a été très fier de dire que son désir comme directeur d'un institut d'études politiques était de former des hommes et des femmes qui savaient que la vérité n'existe pas, mais qui, en toutes circonstances, étaient capables de donner l'apparence de la sincérité. Alors, après, il ne faut pas s'étonner des prouesses de certains de nos politiques et des syndromes plus ou moins administratifs qui parfois les atteignent, mais en même temps, le fait de parler de sincérité, c'est réintroduire la question de la vérité, dont on ne peut pas se défaire. Il y a un goût de la vérité dans la personne humaine qui est plus fort que toutes les dénégations. D'ailleurs, de manière générale, je pense qu'il faut toujours nous dire que la nature humaine, elle est rien solide. On peut beaucoup la défigurer, mais elle est si belle, créée à l'image de Dieu, que le naturel, pour le meilleur, revient aussi vite qu'on l'a chassé. Alors, sous la vérité, il y a, à mon avis, deux points importants à cultiver. D'abord, eh bien que nous aimions, nous aussi, la vérité. La vérité qu'il faut ne pas croire trop vite posséder, mais qui doit sans arrêt être cherchée. La vérité, elle est toujours plus grande que ce que nous en connaissons. Certes, elle est constituée d'exactitudes successives, mais, et là, le relativisme nous pose aussi des questions bienfaisantes et fécondes, et même si les dogmes de l'Église sont magnifiques, le dogmatisme est en effet une attitude de mauvaise aloi, il nous faut vraiment le goût exigeant de la vérité. C'est d'ailleurs très très beau de penser à ces convertis, ces grands convertis du XXe siècle, qui sont allés au Christ parce qu'ils avaient un goût extraordinaire de la vérité. Je pense à Jacques Maritain, par exemple, qui, d'origine juive, athée, avait le désir de cultiver son athéisme, mais en même temps, à travers les cours de Bergson, a été éveillé à la profondeur spirituelle de la personne humaine, et la sincérité de sa recherche de la vérité était telle que, malgré son propos d'athée militant, il est allé jusqu'à la découverte de l'esprit et jusqu'à la rencontre avec le Christ. On pourrait citer aussi l'exemple magnifique d'Edith Stein. Vous savez, assistante de Husserl, et puis ayant découvert Sainte Thérèse d'Avila et morte en déportation, après un itinéraire à la fois spirituel et intellectuel remarquable. Donc il faut que nous ayons le goût de la vérité. Non pas des vérités par mode de slogan, non pas des vérités préfabriquées, mais chacun, avec ce que nous sommes, le goût de chercher la vérité. Et vous savez, comme chrétiens, nous savons que la vérité, ultimement, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, notre rapport à la vérité n'est jamais un rapport réducteur, parce que la vérité nous savons qu'elle dépasse tout ce que nous en dirons jamais et tout ce que nous en reflèterons jamais. Donc nous avons une capacité, par notre relation au Christ, qui est la vérité, d'être des chercheurs de vérité qui ne se satisfont pas trop vite de vérité approximative. La deuxième chose qui me semble importante, c'est que nous ayons intégré cette merveille du rapport chrétien à la vérité, qui est de ne pas se laisser enfermer dans l'alternative grossière et malfaisante de l'enracinement et de l'ouverture. Vous voyez, on va souvent dire, d'une certaine manière, pour être capable de dialogue, il faudrait mettre une partie de notre appartenance chrétienne en sourdine. Mais ça, c'est être du monde de dire cela. Parce que il n'y a pas eu de personne plus ouverte au monde que Jésus. L'ouverture, comme nous l'aimons à tous, l'écoute, l'ouverture, elle a pris une forme dans le cœur ouvert de Jésus. Et donc c'est parce que nous sommes enracinés dans le Christ qu'en lui, par lui, avec lui, en lui, nous pouvons être authentiquement ouverts. Et donc nous n'avons pas à choisir entre l'enracinement et l'ouverture, nous avons à choisir l'enracinement en vue de l'ouverture et réciproquement. Amour et vérité se rencontrent, dit un psaume. Et ce psaume, comme toute l'écriture, s'accomplit dans le Christ. Je suis frappé, Valentin faisait allusion au fait que le petit livre que j'ai fait m'a conduit à aller souvent parler avec les uns et les autres. Et je suis assez frappé de voir des catholiques qui me disent, je pense à un curé de paroisse, je pense à un responsable d'enseignement catholique, Dieu sait ce que je n'aimerais pas, et disons, mais oui, non, la vérité c'est fini maintenant, on ne peut plus parler de vérité aujourd'hui. Les situations sont trop mélangées pour qu'on puisse parler de vérité. Mais c'est une erreur et c'est un manque dramatique. Aimons la vérité et surtout, découvrons qu'il n'y a pas d'opposition entre l'amour et la vérité. Au contraire, j'aime énormément cette formule de saint Augustin, que je ne résiste pas à la tentation de vous citer d'abord en latin parce qu'elle sonne si bien. Non intratur in veritatem, nisi per caritatem. Que les latinistes parmi vous retiennent cette formule. Non intratur in veritatem, nisi per caritatem. On entre dans la vérité que par la charité. Comme chrétiens, il nous faut cultiver l'amour de la vérité qui est la condition de la vérité de l'amour. Alors parmi ces vérités, j'en viens à mon cinquième point. Parmi ces vérités qui aujourd'hui sont en attente de notre parole, il y a la magnifique réalité du rapport de l'homme et de la femme. Notre société est totalement déboussolée sur le sujet, vous le savez bien, et les gender studies qui ont leur intérêt, mais aussi leurs écueils immenses, nous le savons bien, en sont le signe. Mais cette question-là, c'est aussi, en un sens, un signe d'espérance. Parce que s'il y a tant de réflexions, de polémiques même sur le sujet, c'est que nos contemporains perçoivent que le rapport de l'homme et de la femme est une des questions les plus importantes qui soient. Et sans le savoir, sans le vouloir, nos contemporains nous mettent devant les premières pages de la Bible. Dieu créa l'homme à son image il le créa, homme et femme il les créa. Et vous savez à quel point il est beau de voir que le premier émerveillement dans la Bible, c'est l'émerveillement de l'homme devant la femme. Voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Donc notre société déboussolée sur le rapport homme-femme, perçoit qu'il y a là un enjeu essentiel. Face à cet enjeu, à nouveau, deux suggestions d'attitude. Le premier, sortons d'une espèce de mauvaise conscience, comme si le catholicisme était la source de la misogynie diffuse qui traverse l'histoire. Le féminisme, permettez-moi de le dire d'abord d'une formule abrupte que je préciserai ensuite, le féminisme est un phénomène chrétien. Et le féminisme, au meilleur sens du terme, est sans doute un des phénomènes chrétiens les plus beaux et les plus décisifs. Parce que dans les grandes ruptures anthropologiques que le livre de la Genèse désigne dès son chapitre 3 et qui sont des expressions de ce qu'on appelle le péché originel, il y a le rapport blessé entre l'homme et la femme, qui peut être un rapport de domination indue. Et il faut toujours redire que quand il est dit au chapitre 3 de la Genèse, la femme, ta convoitise te conduira vers ton mari et lui dominera sur toi, il n'y a pas là une prescription de la domination masculine, mais une dénonciation de la domination masculine comme conséquence particulièrement emblématique du péché originel. Et le rapport de Jésus aux femmes est une des expressions du salut qu'il apporte. Il relève l'humanité en relevant notamment le rapport de l'homme et de la femme. Si vous n'avez pas lu ce livre, je recommande un très beau livre, ancien déjà, mais qu'on trouve encore sur Internet, « La grâce d'être femme » de Jean-Jacques Lacquière. Et Jean-Jacques Lacquière commente magnifiquement la guérison de la femme courbée comme icône de ce que le Christ fait pour les femmes en général et pour l'humanité d'ailleurs. « La grâce d'être femme », Jean-Jacques Lacquière. Alors, vous voyez, ne soyons pas prisonniers d'une mauvaise conscience dans ce domaine-là. Bien sûr, il y a, parce que les chrétiens sont pris dans l'humanité commune, il y a de la misogynie, et même parfois de la misogynie persistante dans l'Église. Mais fondamentalement, la promotion des femmes est le fruit du christianisme. D'ailleurs, le féminisme est né dans l'ère chrétienne. Certaines postures un peu outrées de féminisme ont pu se faire contre l'Église catholique, mais comme un phénomène adolescent à l'intérieur d'une famille. Et vous savez que il y a des directeurs d'hôpitaux publics en France depuis quelques décennies, mais il y a des directeurs, des femmes responsables d'institutions hospitalières à l'intérieur de l'Église depuis des siècles et des siècles et des siècles, depuis le haut Moyen-Âge. Et savez-vous qui a inventé la parité ? L'antique liturgie romaine. La prochaine fois que vous entendrez la prière eucharistique numéro 1, le canon romain, vous verrez le soin avec lequel, dans la deuxième série de saints, on a mis 7 martyrs hommes et 7 martyrs femmes. Donc, la parité est une belle chose, puisqu'elle a ses lettres de noblesse liturgique antique. Donc, premièrement, ne soyons pas enfermés dans une mauvaise conscience, mais deuxièmement, entrons pleinement dans cette logique du rapport de l'homme et de la femme, en comprenant comment le Christ époux, tourné vers l'humanité, éveille l'humanité à elle-même, en particulier en renouvelant ce rapport entre l'homme et la femme. Et c'est pour ça aussi que les chrétiens, et à travers toute l'Église, doivent être très attentifs à cet équilibre des relations. Mais en même temps, j'ai trop l'occasion de parler de ça dans les questions, mais en même temps, notre grâce, notre exigence de catholique, c'est de développer un féminisme de l'égalité qui ne soit pas un féminisme de l'identité. Et je crois que dans l'Église, il y a peut-être encore des pas à faire, mais je ne crois pas que le pas à faire soit de l'identité exacte des fonctions. Et ce point-là est très important, non seulement pour l'Église, mais pour le monde. Il me semble que si les chrétiens, par démagogie, tomber dans un goût de l'égalité qui serait de la fascination pour l'identité, ce serait une sorte de catastrophe anthropologique. On perdrait la grâce du rapport différencié entre l'homme et la femme. Je me permets d'ailleurs de vous recommander sur ce très beau thème du rapport homme-femme un texte de Marie Balmarie, psychanalyste extraordinaire, qu'on trouve sur Internet, qui s'appelle « Lire la différence des sexes ». Lire la différence des sexes, vraiment un texte magnifique. J'en viens maintenant à mon sixième point. Une vérité que les chrétiens doivent annoncer avec joie et amour, c'est que la santé d'une société est liée à la manière dont elle traite les plus pauvres. Et aujourd'hui, l'engouement, disons, humanitaire de nos contemporains est un signe réel d'espérance. Et là aussi, il ne faut pas que les chrétiens se laissent aller à une sorte de nostalgie. Beaucoup de catholiques se disent que depuis que Sœur Emmanuelle, Mère Teresa et l'abbé Pierre sont morts, depuis que cette trinité caritativo-médiatique a disparu, eh bien finalement, nous sommes retirés des vrais combats de la charité. Or, c'est tout à fait faux. Et c'est impressionnant de voir aujourd'hui, et là, c'est la nuance que j'ai dit tout à l'heure contre le manque de propositions des catholiques en France, il y a énormément d'initiatives nouvelles. Aujourd'hui, en France, vraiment, les catholiques sont aux avant-postes de la charité. Il ne faut pas s'en enorgueillir, il faut toujours aller plus loin, mais il faut aussi le voir pour pouvoir justement s'appuyer sur cette expérience positive pour aller plus loin. D'une part, parce que je pense que l'énergie dépensée au service des pauvres doit être maintenue et développée, mais une énergie analogue doit s'investir dans la culture et la communication. Et puis ensuite, parce que ça permet de comprendre ce qui est en jeu. Et là, à nouveau, deux propositions qui me semblent importantes. Quelle est la valeur ajoutée aujourd'hui des chrétiens, pas exclusivement, mais notamment par rapport à la prise en charge des grandes pauvretés par les pouvoirs publics? Le goût de la personne, l'attention aux personnes, de ne pas prendre les problèmes caritatifs comme des problèmes techniques. La très belle initiative qui s'appelle Au Captif à Libération, qui est née à Paris, qui a essaimé ailleurs, c'est eux qui ont inventé, en fait réinventé, ce que tout le monde fait aujourd'hui, les maraudes. Présence auprès du monde de la rue, SDF, prostitution, etc. Un des refrains de cette association, c'est de dire « pas de prestations sans relation ». Et aujourd'hui, énormément de prestations sont distribuées, mais un nombre bien insuffisant de relations sont nouées. Et il y a là une responsabilité importante pour les chrétiens en France. Deuxièmement, nous serions parfois tentés, et la voix ambiante conduit parfois dans cette direction-là, à opposer les repères éthiques et la responsabilité de proximité, de soins, d'aide. Dans le débat sur la fin de vie, c'est constant. Certes, la vie mérite d'être respectée jusqu'au bout, mais quand on voit quelqu'un souffrir énormément, ne faut-il pas l'aider à mourir? Dans ce domaine-là, aucun raccourci n'est légitime, les questions sont complexes, et il ne faut pas raisonner de manière grossière. Mais en même temps, l'acte de foi que nous pouvons faire, et c'est plus qu'un acte de foi, c'est que l'amour de la vérité, le vérité de l'amour passe par l'amour de la vérité. Et que ne pas respecter la vie humaine, c'est fabriquer de la violence. C'est manquer aux soins véritables que l'on doit à ceux qui souffrent. Et cet exemple que je prends est extrêmement stimulant, parce que on voit bien que le souci éthique encourage de manière extraordinaire à développer l'accompagnement palliatif, le traitement de la douleur. Et donc nous ne pouvons pas accepter l'opposition entre l'éthique et le caritatif, mais au contraire, à comprendre que l'éthique est la condition de la charité ou du soin authentique. J'en viens maintenant à mon septième point. J'espère que vous me suivez encore. Et qui est essentiel, me semble-t-il, c'est la question spirituelle. Aujourd'hui, beaucoup de nos contemporains sont marqués par une grande soif spirituelle. On se désole du développement de, un petit peu moins qu'il y a quelques années, des lieux bouddhistes plus ou moins frelatés. On se désole de la taille des rayons dans les librairies de supermarchés sur le développement personnel. Mais tout cela manifeste bien un désir de surcroît intérieur. Face à cela, il me semble, je vais un peu vite pour ne pas faire trop dépasser mon temps, face à cela, je pense qu'il y a deux attitudes importantes pour nous tous. Premièrement, eh bien que nous-mêmes, nous nous investissions spirituellement de manière forte. J'ai évoqué Bernard Nault tout à l'heure, dans le journal de la Curée de Campagne, il y a un beau passage où le curé de Torcy, qui est le solide mentor du héros, le frère le curé d'Ambricourt, lui dit à un moment donné « Tu ne pries pas assez. Tu souffres trop pour ce que tu pries. » Et moi, je trouve que cette phrase, elle s'adresse à nos contemporains, elle s'adresse à nous, elle s'adresse peut-être à nous aussi, catholiques, aujourd'hui. Nous ne prions pas assez. Nous ne prions pas assez pour ce que nous avons à souffrir, ce que nous avons à affronter, ce que nous avons à assumer. Évidemment, mais je crois qu'on en est sorti, il faut sortir de l'opposition sotte entre l'enracinement spirituel et l'action. Évidemment, ces deux dimensions de la vie chrétienne et humaine se fécondent mutuellement. Et il est absolument important de nous enraciner spirituellement de manière forte. Deuxième proposition, c'est que nous soyons capables de transmettre non seulement le goût, le désir de la prière, mais la manière de prier. Beaucoup de fidèles m'ont dit, en bien des circonstances, les prêtres nous disent toujours qu'il faut prier, mais ils nous apprennent rarement à prier. Alors, je pense que la paroisse de Montigny-Bretonneux est très très formée dans ce domaine. Je crois me souvenir il y a quelques années de grandes retraites paroissiales. Et donc, vous êtes tous déjà au top de la capacité non seulement à prier, mais à transmettre la manière de prier autour de vous. Mais je crois qu'il y a une vraie priorité, parmi beaucoup d'autres, pour l'Église aujourd'hui, d'être véritablement pédagogue de la prière. Alors, j'en viens maintenant à ma conclusion, qui sera en deux points, avec la référence à deux personnalités. J'ai commencé avec deux papes, le pape François et le pape Benoît XVI, et je vais terminer avec le Saint-Pape Jean-Paul II. Vous vous rappelez, le jour de son élection, 16 octobre 1978, le brave cardinal italien chargé d'annoncer son nom qui avait du mal à le prononcer. D'ailleurs, personne n'a jamais su comment il fallait prononcer le nom Wojtyla. Et ce nom qui a retenti comme une sorte de cri de liberté. Vous vous rappelez qu'à cette époque-là, personne n'imaginait qu'un jour, mais quel aveuglement historique, qu'un jour, le mur de Berlin, qu'il avait fallu quelques semaines pour dresser, pourrait s'écrouler. Et la force de la liberté spirituelle de Jean-Paul II, avec d'autres forces politiques, économiques, mais que son élan spirituel a cristallisé, a contribué à développer, a fait que l'histoire de l'Europe et du monde, du coup, a été totalement bouleversée. Nous ne sommes pas loin de l'Apocalypse. Pourquoi ? Parce que la vision de l'histoire de Jean-Paul II est totalement polarisée par le mystère du Christ. Rappelez-vous ce jubilé de l'an 2000, qui dès sa première encyclique, le Rédempteur de l'homme, il a annoncé comme devant être préparé par un temps d'avant, A-V-E-N-T, vous voyez, était vraiment une vision de l'histoire polarisée par le mystère du Christ et la mémoire des 2000 ans depuis l'incarnation. Et donc, cette vision christocentrique de l'histoire a suscité une liberté spirituelle qui a eu une pertinence historique considérable. J'ose à peine évoquer la deuxième personnalité que je vous propose en conclusion, mais bon, vous pardonnerez au prêtre du diocèse de Paris que je suis d'être un Parisien impénitent, il s'agit du cardinal Lustiger. Un des plus beaux textes du cardinal Lustiger est une conférence qu'il a prononcée à Augsbourg, peut-être 10 jours après la chute du mur de Berlin. Il était nommé docteur honoris causa de l'université d'Augsbourg. Nous sommes aujourd'hui dans l'anniversaire des libérations des camps, celui dont la mère était morte à Auschwitz, qui était un assez bon germaniste, a prononcé cette conférence en allemand. Signe des temps aussi de la capacité de réconciliation portée par les chrétiens qui porte de grands fruits dans l'histoire. L'Apocalypse est pleine de tourments, mais la force véritable de l'histoire, c'est la miséricorde. Et dans cette conférence, le cardinal Lustiger répète comme un refrain étonnant, nous sommes au commencement de l'ère chrétienne. Pourquoi ? Parce que justement, ces questions nouvelle et énorme auxquelles l'humanité doit faire face. Il évoque la question de l'unité du genre humain et de son intégrité. Toutes les questions de bioéthique sont contenues là. La question du rapport à l'environnement, la question de la mondialisation Eh bien, toutes ces questions nous enjoignent désormais de nous décider collectivement pour le Christ, pour la vie, de manière plus forte que jamais. Voilà pourquoi je trouve dans cette lumière très stimulant de nous dire à tous, avec beaucoup de confiance dans les forces que l'Esprit donne à chaque étape de notre vie pour pouvoir faire face aux questions que nous avons à affronter, que, à bien des égards, dans notre pays aujourd'hui, l'heure des catholiques sonne comme jamais.